Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
La famille Broccoli quitte son Italie natale après la Seconde Guerre mondiale pour s'installer dans la vallée de la Fensch en Moselle et y trouver du travail. Le petit Walter y grandit avec d'autres enfants d'immigrés, italiens, polonais, portugais. Adulte, Walter Broccoli embauche naturellement à l'usine ArcelorMittal de Florange. Il s'implique dans des activités syndicales et en 2012, quand Arcelor annonce la fermeture des hauts fourneaux, Walter est secrétaire général de Force ouvrière et figure de l'opposition à la direction. Son fils, David, lui, ne s'intéresse pas à grand-chose et traîne des pieds pour aller voter. Enfin ça, c'est avant 2014. Car voici que par un beau matin de cette année-là, en ouvrant le journal, Walter tombe sur le nom de son fils, en bonne place, sur la liste Front National aux élections municipales de Thionville. Il appelle immédiatement David. Une dispute éclate, le fils raccroche au nez du père. C'est une des dernières conversations entre eux. S'en suivent quelques échanges par SMS, de plus en plus amers. David n'est finalement pas élu, mais lorsqu'en 2015, la liste de Florian Philippot arrive en tête du premier tour aux élections régionales, il envoie un texto à son père, je cite « Les fachos vous l'ont foutu bien profond ». Et puis plus rien, les liens entre le père et le fils sont rompus. Sur France 2, où Walter Broccoli vient raconter son histoire, il émet diverses hypothèses couramment avancées. La misère de ce jeune homme qui gagne 480 euros par mois malgré un BTS informatique, la haine contre les politiciens, contre la société, une vengeance ou tout ça à la fois. Ces explications n'empêchent rien, tant que son fils sera au Front National, son père ne lui parlera pas, pas même un message pour son anniversaire. Les deux hommes vivent à deux pas dans la même ville mais ne se voient jamais. Une histoire hélas qui n'est guère étonnante. Tout de suite dans les pieds sur terre, trois autres histoires de liens rompus entre des parents et des enfants, des vieilles douleurs et d'anciennes rancœurs. Famille, je vous hais, par Léa Minot.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai grandi dans le nord de la France avec ma mère et mes grands-parents qui m'ont élevé les trois premières années de ma vie. Parce que ma maman m'avait eue toute seule, elle c'était la maîtresse d'un homme qui avait choisi de quitter ma mère lorsqu'elle est tombée enceinte. Et ma mère rencontre un homme à mes 3 ans, l'épouse, et lui demande de me reconnaître. Et cet homme devient mon père adoptif. À partir de là, la vie de famille devient un peu plus chaotique. Parce que un an après leur mariage, ils ont une première petite fille, puis une deuxième, et puis ils déménagent dans le sud et mettent 1000 bornes de distance entre eux, mes grands-parents et moi. Moi, on m'oblige à accepter cette nouvelle vie familiale, à accepter ce nouveau père et à dire adieu à ce cocon familial qui m'avait protégée les premières années de ma vie. Ça a été très dur pour moi. Comme les petites sont arrivées très vite, j'ai vu la différence entre moi et mes petites sœurs. C'était pas la même chose, même si on l'appelait papa de la même manière, on me traitait pas de la même manière. Quand je dois venir lui dire bonne nuit le soir, j'avais toujours l'impression de faire la bise à un homme hyper froid. J'avais pas l'impression d'avoir quelqu'un qui me faisait un bisou en retour. Ma mère, dans les premiers temps, on avait des domaines sur lesquels on s'entendait bien, mais c'était pas une mère super aimante non plus. Disons que moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être le vilain petit canard, toujours eu le sentiment que si je voulais faire des choses, je pouvais les faire, mais en gros, je pouvais compter que sur moi. L'exemple le plus flagrant qui me vient en tête, c'est qu'à 8 ans, si je veux aller voir mes copines, je peux aller les voir. Mais j'y vais par mes propres moyens, en vélo, et mes copines, elles habitent à 8 km de chez moi. Et je dois passer par une départementale. Pour un enfant de 8 ans, normalement, les gens se disent « c'est un peu dangereux quand même ». Mes parents, ils se disent surtout « nous, on ne veut pas prendre la voiture, donc tu te débrouilles ». Et ça, ça a continué jusqu'au lycée. Et au lycée, mes amis, ils habitaient plus à 8 km, ils habitaient à 20 km. Donc, je sens clairement le décalage entre mes sœurs et moi, même ne serait-ce que les activités qu'on peut faire. Les petites, elles ont le droit de faire l'équitation, moi j'ai pas le droit, parce que ça coûte cher. Mais les petites, elles ont le droit. J'ai pas les marques d'affection que peut avoir un papa. Et puis le décalage, il va s'amplifier de manière croissante après le lycée. J'ai eu le bac, et le lendemain de mon bac, quand on a eu la discussion de ben, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on te prend un logement ou est-ce que tu restes avec nous, j'ai dit ben non, il va falloir me prendre un logement ce jour-là. Ça a été la fin. Ça a été la fin de toute communication entre lui et moi, parce qu'il a fallu me financer. Je ne sais pas si c'est payé pour moi qui lui a posé problème, mais en tout cas, il ne m'a plus jamais adressé la parole, j'avais 17 ans. Ma mère a souvent eu cette phrase qui était « Mais tu sais, Louise, il regrette de t'avoir adoptée. » En parlant de son mari, que moi j'appelle papa. Elle n'a jamais cherché à faire en sorte qu'on se reparle. Elle a plus cherché à faire en sorte que ça continue, cette distance et ce désamour. J'ai jamais osé demander à mon père adoptif si c'était vrai, si vraiment il regrettait. Parce que c'est dur aussi de vérifier si c'est vrai cette phrase. J'ai jamais osé lui parler. J'ai jamais osé lui dire que, en fait, j'aimerais bien qu'il m'aime. Le plus dur a été de voir que, quand je revenais le week-end, mon père prenait son plateau et partait manger dans le salon. Et ma mère faisait de même. Et un jour, j'ai demandé aux petites, mais maintenant, les parents, ils mangent dans le salon. Et il y en a une des deux qui m'a répondu, non, c'est juste quand t'es là. Et elle se rendait pas compte du mal qu'elle me faisait en disant ça. Là, ça a été le coup près. Je revenais plus dans la maison le week-end. Je restais dans ma petite chambre d'étudiante. Donc, à la fin de ma licence, là, ils m'ont dit, on arrête, Louise, de te financer, tu te débrouilles. Et moi, je voulais continuer, je voulais faire mon master. J'ai juste demandé, est-ce qu'on est d'accord que les petites, vous allez les financer jusqu'à la fin de leurs études? Et l'une d'elles faisait des études de médecine. Et ma mère a répondu oui. J'ai demandé, alors on est d'accord que c'est parfaitement injuste? Et elle m'a dit oui. Là, ça a été la première fois où j'ai essayé d'arrêter de lui parler. J'ai tenu 3-4 mois. Et puis, sous la pression familiale, des gens qui disent, mais tu as qu'une mère, tu devrais continuer à lui parler. Je suis revenue. Et on recommence à s'appeler tous les jours. On s'appelait tous les jours avec ma mère. Et on se racontait nos vies. Et puis on se racontait surtout ce qu'on aimait lire, ce qu'on aimait voir au cinéma, parce qu'on adore les mêmes choses. C'était une personne avec qui j'avais beaucoup d'atomes crochus. On parlait énormément de littérature, de langue, de voyage. Et tout cet héritage-là, je le tiens d'elle, de ma mère. Mais elle prend toujours un malin plaisir à me dire tout ce qu'elle fait pour les petites et qu'elle n'a pas fait pour moi. Et donc les jours où ça va bien, ça me passe un petit peu au-dessus, mais si pour une raison X ou Y ça va pas trop dans ma vie, bah forcément ça commence à me peser. En fait, avec ma mère, je ne peux avoir de contact que si on met sous le tapis toutes ces différences, sauf que... En fait, les différences, elles sont tellement grosses qu'on ne peut pas jouer à l'autruche très longtemps. Et donc, ça va rééclater à mes 27 ans. Il y a 2 ans, ma mère m'avait dit, quand tu reviens à Toulouse, mais viens dans la maison, ça me fera plaisir. Ça faisait 7 ans que je n'avais pas remis les pieds dans la maison où j'ai grandi. Donc, je me suis dit d'accord. Mais... 2 jours avant que je vienne, ma mère me dit « En fait, ça va pas être possible. Ton père veut pas te voir, il est pas prêt psychologiquement. » Je sens que je suis dévastée et que je me suis dit « Plus jamais, je peux plus accepter ça. » De m'entendre dire qu'il faut une préparation psychologique pour voir la fille qu'on a élevée, même si je suis pas sa fille biologique. J'ai appelé une dernière fois ma mère en lui disant tous mes sentiments. le mal-être que je ressens. Elle a rien voulu entendre. Et je lui ai dit qu'elle n'était plus la bienvenue dans ma vie. Et depuis, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. J'ai l'impression d'avoir passé des années à crier pour être entendue et à pas être écoutée. Alors j'ai préféré me taire. Je dépends plus de cette affection que je recherchais désespérément et que j'obtenais jamais. J'ai plus besoin de mes parents pour exister. Je me donne le droit d'exister. Et ça, c'est beaucoup. Je suis heureuse et je reviendrai pas en arrière.
Je m'appelle Christophe, j'ai 39 ans. L'histoire avec mes parents a été particulière dans le sens où je m'entends bien avec ma mère, mais je ne parle plus à mon père depuis très longtemps. Donc pour essayer de la faire simple et rapide, mes parents sont venus en France dans les années 70. Mes deux parents sont portugais. Ma mère était déjà enceinte de mon frère quand ils sont arrivés en France. Ils ont eu ma grande sœur entre-temps, et après moi, donc en 1979. Mon père travaillait beaucoup à l'étranger, il était chef de chantier. Il bossait à l'étranger, parfois plusieurs années de suite. Il rentrait une fois une semaine, par-ci par-là, tous les 6 mois, 1 an, 2 ans. Je ne me souviens pas d'avoir passé un Noël avec lui. On n'a pas créé d'affinité. J'ai pas de souvenir en tout cas d'un père qui puisse s'occuper de ses enfants. Aucun rapport affectif, aucun rapport d'éducation, aucun anniversaire, aucune date, il n'était jamais là. Je décrirais mon enfance comme un gamin qui a eu envie de s'intégrer, parce que ma mère parlait très mal français, je connaissais pas mon père, ou très peu. Et j'ai fait un refus de toute culture portugaise, de parler le portugais, de... Et puis un jour, il y a eu une vraie séparation quand mes parents se sont divorcés. Je devais avoir dans les 6-7 ans, un truc comme ça. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu la première vraie rupture, où effectivement bah, c'est une rupture physique et administrative, on va dire. Mais ça n'a pas changé grand-chose pour moi, dans la façon dont j'envisageais mon père. Les années se passent, et à l'âge de 16 ans, je rencontre la mère de mes enfants. On est tombés amoureux très tôt, et on a eu notre premier enfant très tôt aussi, à 19 ans. Et là, j'ai envoyé une lettre à mon père pour lui signifier ou l'informer qu'il allait être grand-père et que j'allais être son premier enfant, qui allait avoir un enfant. Je me souviens d'avoir écrit « papa » sur la lettre. Je me disais que, quand bien même il n'avait pas été là pendant mon enfance à moi, peut-être qu'il aurait souhaité... se manifester au moins pour l'enfance de son petit enfant. Et j'ai eu aucune réponse. Je continue ma vie, j'ai un deuxième enfant. On allait avoir mon troisième enfant, donc ma deuxième fille. Et je me dis, bah, ce serait quand même intéressant d'aller lui montrer ce qu'il a raté, un petit peu son échec à travers ma réussite. Et donc, j'y suis allé avec les enfants et ma compagne de l'époque. Je suis allé le voir chez lui, au Portugal. Ça me devait faire une dizaine d'années, 15 ans, qu'on s'était pas croisés au moins. Et puis, la rencontre en elle-même, au début en tout cas, était très plate, sans relief, aucune vraie émotion, une bise, mais pas plus. Et puis, je me suis dit qu'il fallait un peu bousculer les lignes, quoi. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'on s'isole tous les deux et où là, moi, je lui ai un peu déballé tous mes reproches. D'être en colère parce qu'il n'avait pas été là, parce qu'il ne m'avait pas éduqué. Et un manque, le manque d'un père présent pour aider à faire grandir. Et je me souviens même lui avoir dit que je le détestais parce qu'il ne m'avait pas appris à jouer au foot. Alors que je déteste le foot, alors que ça m'est complètement égal. Mais c'était l'image d'un père, d'un parent qui apprend à grandir. Et... Il a nié en bloc que c'était sa responsabilité, que c'était toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit, bon, voilà, il n'y a plus rien à en faire. J'ai essayé de raccrocher les wagons, mais ça marche pas. Donc on retourne en France et c'est terminé, quoi. J'avais vidé mon sac. J'avais dit ce que je pensais vraiment et ce que j'avais jamais eu l'occasion de lui dire, en fait. Quelques années plus tard, avec la mère de mes enfants, on vient se séparer. Du coup, dans ma tête, un gros bouleversement où je me dis, oh là là, faut absolument pas que je reproduise ce schéma-là. Bon, on se sépare. Sauf que moi, je reste en France, je reste voisin, je reste à proximité, toujours aimant, toujours présent pour mes enfants. Mais peut-être un peu trop. La séparation faisant, j'exacerbe un amour pour mes enfants. Je les prends toujours dans mes bras, je leur fais 35 000 bisous avant de se coucher. Je suis peut-être un peu trop inquiet quand ils sont en train de traverser ou des choses, enfin des petits gestes du quotidien. Et donc, un jour, ma dernière fille, un soir en la couchant, elle me dit, mais papa, pourquoi tu me dis tout le temps que tu m'aimes? Et là, moi, je suis en face d'elle et je sais pas quoi lui répondre. Et 15 jours plus tard, je les ai à nouveau avec moi le week-end et je les réunis tous les trois. Je leur explique, en fait. Je leur dis tout simplement que moi, on m'a pas appris à aimer, on m'a pas montré comment faire pour aimer ses enfants. Et que du coup, je faisais comme je pouvais. Et surtout, j'avais le besoin de leur montrer qu'ils se sentent aimés, en fait. Et ça a changé complètement les rapports. Ils acceptent beaucoup plus facilement que je puisse être aussi tactile, aussi aimant avec eux. Mon père habite toujours dans la maison qu'ils avaient avec ma mère avant de venir en France. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on s'est parlé, c'était il y a à peu près une douzaine d'années, chez lui au Portugal. Et depuis, rien du tout. J'ai appris il y a 2 ans à peu près qu'il était gravement malade d'un cancer. Mais si je vois la question arriver, non, non, je n'y suis pas allé, je n'irai pas au Portugal le voir malade. Et j'ai même dit à ma mère que j'irai pas à l'enterrement. J'ai pas de compassion pour lui. Je sais pas faire semblant, moi je suis quelqu'un qui sait pas faire semblant, je suis trop entier pour pouvoir dire comment ça va à quelqu'un dont je m'en fous, en fait. On n'a rien partagé, c'est un étranger pour moi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a rien fait pour être un père, si ce n'est une insémination, quoi. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est une affaire classée, ouais.
Je m'appelle Sandra, j'ai 30 ans, je suis née en Colombie, à Bogota, et j'ai été adoptée par mes parents adoptifs à l'âge de 3 mois. Mon père est français, il vient de Bordeaux, et ma mère est d'origine colombienne. Mon père avait eu un premier cancer à l'âge de 36 ans, par la suite il est devenu stérile, et c'est ce qui l'a amené à m'adopter. 11 mois après ma naissance, ma petite sœur vient au monde, en théorie, d'une fécondation in vitro. Ça a été la version officielle dans la famille.
Et comment vous vivez cette adoption avec votre mère et votre père ?
Je l'ai découvert plutôt jeune, j'avais 5 ans. C'était en été. J'étais dans le salon en train de jouer avec ma sœur. Et mes parents m'ont expliqué que je n'étais pas sortie du ventre de ma maman. J'ai pas de suite compris, mais je sais que je l'ai expliqué en cours de récré à mes copains. Et je disais que moi, j'étais différente d'eux parce que j'étais pas sortie du ventre de mes parents. Et que du coup, je connaissais pas mes vrais parents. Mon père, il n'a jamais fait de différence. Mais très rapidement, j'ai senti que ma mère faisait beaucoup de différence entre ma petite sœur et moi. Ma sœur est déjà plus câline que moi au départ et donc du coup ma mère allait plus facilement lui faire des câlins. Et puis par la suite, comme j'avais un fort caractère, je pense qu'on se comprenait pas. Lorsqu'on se parlait, on s'aboyait dessus. Les différences pour moi, c'était ma petite sœur. Qu'est-ce que c'est une petite fille mignonne? Ah, et Sandra, elle a du mal, elle a beaucoup d'agressivité, c'est pas normal. Et je me souviens, lorsque j'étais petite fille, j'étais quelqu'un de rebelle, j'avais une certaine agressivité en moi. Et il expliquait toujours, c'est parce que ce sont les gènes. Et ça venait pas, c'était pas de leur faute, c'était dans les gènes. La première fois que j'ai vu un psychologue, je devais avoir 11 ans. Et pour moi, c'était, je comprends pas pourquoi mes parents m'amènent chez un psychologue. Pourquoi moi et pourquoi pas ma petite sœur? Enfin, après tout, c'est un problème de famille. Si on a un problème, c'est pas moi le problème. Je me souviens que c'était pour moi quelque chose de très dur. Du coup, j'ai vécu cette adoption comme un handicap. Souvent, ma petite sœur s'amusait à me dire le matin, lorsqu'on se coiffait pour aller à l'école, elle était petite, elle devait avoir 4 ans, et elle disait « Ah, toi, tu ressembles pas à maman, moi, oui. » J'ai dû me construire toute seule. À l'adolescence, donc je devais avoir 14 ans, 15 ans, ma mère a dit « On va essayer de retrouver tes parents. Peut-être que tu te sentiras mieux avec eux. » Je suis partie avec ma mère. Donc, j'ai été adoptée grâce à une sœur de ma mère adoptive. Elle était prof dans un collège en Colombie. Et un jour, il me semble que la femme de ménage du collège était enceinte de son 8e enfant. Donc, j'étais la 8e, une très grande fratrie. Et qu'elle ne voulait pas garder l'enfant parce qu'elle pouvait pas nourrir une 8e bouche. Et ce qui s'est passé, c'est que ma tante savait que mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfant et elle en a discuté avec ma mère et c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, on aurait pu savoir qui est ma mère. Néanmoins, la seule tante qui était au courant de son identité est décédée lorsque j'avais 2 ans. Donc, malheureusement, on n'a pas pu retrouver ma mère biologique. À un moment donné, ça a bloqué, en fait. Et elle n'a jamais laissé aucune trace. Pour moi, c'était perdu. On la retrouverait jamais. Je me suis dit, comment je vais faire pour trouver mon identité? 2 ans après... on est reparti en Colombie avec ma mère. Un jour, je me souviens que j'étais en vacances chez une de mes tantes. Ma tante me dit « Viens, il y a ta mère qui rentre. » Je m'assomme à la fenêtre et je la vois tenir la main d'un homme qui n'est pas mon père. C'est comme si j'avais tout enfoui. Comme si j'avais avalé ce souvenir et que je m'en souvenais plus. Puis mon père est tombé malade. Et petit à petit, je me suis souvenue de ce souvenir, de cette image durant laquelle j'ai vu ma mère prendre la main d'un autre homme. Et j'ai compris des choses, j'ai compris un secret de famille. J'ai compris que peut-être ma petite sœur, c'était la fille de cet homme-là. Et j'ai compris que cet homme-là était sans doute un amour de jeunesse de ma mère. Et je me suis dit, lorsque j'ai été adoptée, elle est venue me récupérer, j'avais 3 mois. On a 11 mois d'écart avec ma sœur, donc cet enfant, elle l'a conçu en Colombie. Mon père est mort, j'avais 21 ans. Et j'ai profité pour demander à ma mère si c'était vrai. Elle n'a pas nié, elle m'a dit ne dis rien. Ne dis rien à ta petite sœur. Et je me rappelle, j'étais furieuse. Donc après cette conversation dans la cuisine, moi je pars faire mon stage aux États-Unis. Donc c'était le lendemain. Et je sens que pendant ce stage, les liens se rompent du côté de ma mère. Elle me met davantage à distance. Elle me parle quasiment plus, ni par mail, ni par message. Elle ne m'appelle pas. Elle se demande pas comment je vais. C'est là que je crois comprendre qu'elle a peur en fait que je dise des choses à ma petite sœur alors que c'est pas mon rôle. Moi, ce qui m'a attristée, c'est qu'elle me mette à distance. J'ai le sentiment qu'elle a choisi ma petite sœur plutôt que moi alors qu'il n'y a pas de choix à faire. Et après mon stage aux États-Unis, je me suis dit, Si tu veux vivre en paix, Sandra, si tu veux avancer, il faut rompre les liens. J'ai pris toutes mes affaires dans des cartons. J'ai mis tous les cartons dans la voiture. Et je suis partie chez un membre de ma famille à Bordeaux. Et je me suis dit, il faut que je réfléchisse par moi-même. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui ne me rend pas heureuse? Et ce lien avec ma mère ne me rend pas heureuse. Et aujourd'hui, je pense que c'était la délivrance. C'était vraiment me libérer d'un poids. Et cet amour qu'on a envers sa mère, je ne l'ai pas, moi. Je ne suis pas capable de vous dire si je l'aime ou pas. Ça peut paraître dur, mais je sais que ce n'est pas une nécessité d'être parent, mais si un jour, si moi, je deviens maman, je pense que ça me réconciliera avec ce lien qu'on peut avoir avec sa mère. Peut-être que je serai maman poule.
Soggiandro mensa a me, faccio da iagoria, la gana ci ricria, io i ceter de pasce iaga. Faccio da iagoria, la gana ci ricria, io i ceter de pasce iaga. Somang te che lava, su ne stirca si uva, metro su no dirtio, su jek čaja kamion, vai ušti om podrom za bister dion. Metro su no dirtio, su jek čaja kamion, vai ušti om podrom za bister dion.
Rompre les liens, c'était un reportage de Léa Minot réalisé par Cécile Lafont. Merci à Laure, Louise, Christophe et Sandra. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, c'est notre stagiaire.